the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop.
Troisième émission dans cette fréquence libre consacrée toute cette semaine à Tristan Edern-Vaquette, un artiste aux multiples facettes, vous l'aurez compris si vous nous avez écouté hier et avant-hier, ce que j'espère que vous avez fait, sinon l'émission est disponible en podcast. De retour avec Tristan, on reprend sur son parcours. Alors on parlait hier, toi et moi Tristan, de l'underground et puis du parcours qui a été le tien, éclectique, tu nous l'as expliqué, mais avec toujours un substrat. Et je voudrais avoir ton avis là-dessus, puisque tu es un des rares artistes français contemporains qui s'est de plus en plus, on va dire, radicalisé dans le sens rester fidèle à soi-même, ne pas délayer son message pour accéder aux médias mainstream. Donc tu es à la fois passé chez Frédéric Taddeï dans son émission de temps en temps, ce qui te donne une fenêtre de tir pour un large public, mais en même temps tu es resté dans un certain underground du fait de ne pas vouloir te parjurer, et je crois savoir que tu en as souffert et que tu en souffres toujours. Est-ce que tu peux nous expliquer ton analyse de la chose et ton ressenti par rapport à ça ?
Ouais, alors il y a plein de questions en une, j'ai essayé de prendre les choses dans l'ordre. D'abord, dans l'une des quelques vraies satisfactions que j'ai dans ma vie, c'est bien d'avoir des satisfactions dans la vie, de ne pas être complaisant envers soi-même, mais d'avoir d'être aussi honnête et d'aimer des choses de soi, ça c'est valable pour moi, évidemment pour tout le monde, c'est cette phrase que j'ai écrite en incipit de mon dernier CD, dans une chanson qui est très rapide, speedcore, qui est un règlement de compte avec moi-même, une mise au point, quoi. Et je dis, plus je vieillis, plus je suis radical. J'ajoute d'ailleurs, respire, je suis pas près d'être Renaud, mais j'aurais pu dire Amélie Nothomb. puisque c'est notre fil rouge, ouais. C'est notre métaphore filée, Amélie Nothomb. Plus j'y vais, plus je suis radical, je suis fier de ça. Parce qu'effectivement, à 20 ans, faire le rebelle, et puis tu retrouves les mecs 10 ans après, et puis ils sont rangés, ils travaillent à la poste, ils ont une femme de gosse, bon, c'est vachement facile. Les gens que j'ai pu croiser quelques fois dans ma vie, et que j'ai trouvé beaux, c'était des gens qui étaient radicaux, mais à 40 ans, à 50 ans. En n'étant pas devenu faible et écrasé. J'en ai pas rencontré beaucoup, mais ces gens-là, ils ont, et je pense que c'est la même chose de tout le monde. Il y a un film, un de mes films cultes qui s'appelle Head On, et son personnage, ça tombe bien, c'est un vieux rocker sur le retour qui est resté radical, et il est beau. Il est beau, parce que quand tu portes cette radicalité à 40 ans, à 50 ans, que t'as pas tourné casaque, t'es beau. Donc en ce sens-là, je suis content de moi, et oui, effectivement, ça a du sens. Et les gens souvent qu'on aime en littérature, c'est pas ceux qui sont en littérature ou en art, sont ceux qui ont gardé leur ligne en vieillissant. Je pense par exemple à Léon Blois, bon, à des gens comme ça, c'est souvent un marqueur qui a beaucoup de sens. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout ce que tu dis après dans ta question, moi je suis pas d'accord, en tout cas je le vis pas comme ça. Ça me déplaît pas du tout que tu le penses, je trouve ça même plutôt flatteur.
Non, je pose la question, mais c'est pas une conclusion. Bah, donc explique-nous.
Moi, je le pense pas, je pense que j'ai jamais eu de reconnaissance, je pense pas que trois pauvres passages chez Taddeï, ou quatre passages qui a fait de moi un moment, on verra si ça se prolonge ou pas, j'en sais même rien, qui a fait de moi un peu sa danseuse, qui s'est un peu entichée de ça. Oui, Taddeï a bon goût, oui, il m'a laissé la place, et oui, c'est pas du tout un hasard. Et oui, c'est un peu signifiant, mais enfin, de là à appeler ça une reconnaissance, restons sérieux, quand t'as dit ça donne accès au grand public, mais c'est faux, ces émissions, elles sont vues, j'ai dû être vues 3-4 fois par 600 000, 800 000, 1 million de personnes, sur ces 600 000, 800 000, 1 million de personnes, t'en as 1000 qui ont ouvert un bout de début de sourcil et qui ont fait, c'est qui le mec en rouge, les mi-penchés. Les autres ont fait, oh, bah, Gaulerie, il met les pieds sur la table, il est rouge, donc, tu vois. Mmh. Pas non plus mythifié. C'est pas ça l'ouverture du tout au grand public. Ça, par expérience, je sais qu'une pauvre émission toute pourrie sur Radio Libertaire, le lendemain, te déclenche 10 personnes dans la salle parce que c'est des gens motivés. Ton émission, qui est peut-être suivie par des gens fidèles, va m'amener des gens qui vont avoir envie de me découvrir.
C'est le but.
Tu passes dans un grand média, les gens, ils en ont rien à foutre. c'est la multiplication des grands médias qui font « Ah, mais attends, l'article que je suis en train de lire dans Le Monde, c'est pas le type que j'ai vu l'autre jour chez Thalie, mais si, je l'ai entendu hier sur RTL, et puis France Info, on dit du bien. » Tu vois, c'est ça qui va faire que « Ah, ben, je vais peut-être aller m'y pencher. »
C'est la redondance que tu n'as pas eue.
Exactement, c'est la redondance. Et puis, je vais aller dans ma librairie et il va être en facing. Et puis, je vais l'acheter parce qu'il va être en facing. Bon, c'est ça. Donc, pour moi, cette reconnaissance, d'abord, je l'ai pas eue. Elle était très anecdotique. Et puis tu retires ta DI, tu m'expliquerais que je n'ai eu aucune reconnaissance médiatique.
Bon, je voilà. Faisais aussi un peu le faux naïf dans la question, mais c'est bien que tu le précises, parce qu'il y a peut-être d'autres faux naïfs qui le sont vraiment.
Ta DI, c'est bon, c'est entiché de moi pour des raisons qui, je crois, sont bonnes. Si j'étais le seul qui a un peu de talent, je me dirais, bon, c'est à cause de mon cul. Mais c'est pas le cas, je pense qu'il a une ouverture d'esprit, il a fait aussi passer Coste, il a fait passer des tas de gens comme ça qui n'ont pas forcément de visibilité et qui sont intéressants, donc je ne remets pas en cause le fait que c'était mérité dans mon cas. Mais juste, ça ne suffit pas. Et quand après, j'aurais délibérément, par refus de baisser mon pantalon, brisé une belle carrière, jamais on m'a proposé en main, tiens, ça se passe pas comme ça, tiens, il faudrait que tu fasses tel compromis, signe le papier, et si tu signes, alors tu fais carrière, si tu signes pas, tu ne fais pas carrière.
C'est pas aussi gros.
C'est jamais aussi gros, de la même façon qu'il n'y a aucune censure à la télé.
Oui, ça rejoint tes émissions sur la censure, qui sont sur ton site, où tu expliques pendant des heures. Allez les voir d'ailleurs, ces émissions.
Bon, c'est exactement, moi je sais par expérience, il y a de l'autocensure en permanence, il y a ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut se comporter comme ci, il faut se comporter comme ça. Mais c'est pas, j'ai délibérément fermé des portes. De toute façon, mon travail intéresse pas l'immense majorité des gens qui ont envie, pour rebondir sur la conclusion de ces émissions sur la censure, qui ont envie d'une forme facile et d'un fond facile. Il n'y a pas aujourd'hui cette demande-là, et il n'y aurait probablement jamais eu la demande pour le travail de Ferré de la Faim, si entre-temps il n'y avait pas eu mai 68 qui a apporté un snobisme, qu'il fallait être cool et que le vieil anarchiste révolté qui écrit des choses trop bizarres, parce que nous on nique le système de la variété, on va aller écouter Léo Ferré serait resté inconnu et aimé par 50, 100, 1000 personnes comme moi qui ont une certaine recherche, et moi et d'autres évidemment, qui ont une recherche formelle et qui ont envie de choses difficiles dans la forme et dans le fond. Dans la réalité, c'est que j'intéresse pas grand monde. Alors après, oui, humainement, je suis intransigeant, donc je me ferme plein de portes en étant un sale connard antisocial qui ne veut pas faire les compromis que font la société. C'est très bien. Peut-être ça m'a fermé des portes et que ma carrière aurait été différente. Très bien, admettons. Mais enfin, Piala était passé pour être un connard. Il a eu à peu près une carrière. Et puis, il n'est pas le premier. Et puis moi, en plus, je ne suis même pas un connard. C'est même pas vrai, je suis un connard. Je suis intransigeant, mais moi je m'engueule pas avec les gens, je les insulte pas, je suis pas caractériel du tout. Je suis un connard, mais je suis pas caractériel du tout. Donc je pense que c'est un peu schématique. Et évidemment, si j'avais depuis le début dicté ma vie à me faufiler, à monter tel le lierre bon, on est dans Cyrano en plein, quand je dis que je suis un pur français, moi j'ai les défauts de Cyrano qui est profondément, Cyrano c'est profondément l'âme française. Les défauts, et bien sûr quand je dis ça, je parle des qualités. Hein. Mais de ce côté, cet orgueil démesuré, je l'ai, qui fait qu'on fait pas de compromis. Donc si depuis le début, j'avais été pote avec qui il faut, j'avais avalé les coups d'œuvre en fermant ma gueule. Mais après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais changé ce que mon éditrice a demandé de couper dans mon premier bouquin parce que c'était trop provo.
On en reparlera, oui.
Voilà, et puis qu'après j'aurais pas fait mon morceau de 34 minutes, oui je le sens au fond de moi, mais je sais bien que ça va pas plaire au public, donc à la place je fais 10 morceaux de 3 minutes, et puis là mon nouveau roman, tout le monde me dit c'est trop long, ah ben j'aurais fait un petit polar rigolo. Ça s'arrête où les compromis? Ça s'arrête où? Et effectivement, alors à ce moment-là j'aurais peut-être réussi, mais il aurait fallu que je sois une autre personne et que j'écrive autre chose. Bon, je dis pas qu'il y en a qui le font pas, mais je dis aussi qu'il faut pas non plus se mentir. Jean-Jacques Goldman, c'est pas moi qu'aurait fait plein de compromis. Jean-Jacques Goldman, à un moment, il arrive, il est sincère avec ce qu'il écrit ou avec ce qu'il pense pouvoir écrire, et puis il fait le mieux par rapport à sa volonté, son courage, son talent, à tout ce qu'il a, et il fait des chansons qui sont parfaitement sincères, les gens le sentent et achètent ses chansons en hommage parce qu'elles correspondent à la demande du public, et c'est très bien. Il n'est pas, il n'est pas infiniment plus calculateur et salaud que moi, et moi je ne serai pas infiniment plus pur, et c'est notre ligne de rupture. Je crois pas, je crois que moi dans ma tête, j'ai envie d'écrire des chansons de 35 minutes invitables, parce que c'est là-dessus que je vibre, et que là j'ai envie d'écrire un bouquin profond parce que je suis habité ou malade d'une ambition démesurée et que je suis un barjot, et lui il cherche à toucher le public parce qu'il a envie d'avoir de l'émotion. Il y a évidemment une part de courage, une part de sincérité, une part de calcul, une part de tout ça, il y a tout ce paramètre. Mais il y a aussi le fait que moi, profondément, quand j'étais petit, j'étais solitaire et en mal-être avec mes petits camarades, que rien n'a changé. Je ne suis pas fait pour être un être social, je vais pas me la péter trop différent, mais voilà. Et des gens qui viennent chercher des choses dans mon travail, si j'ai un public aussi réduit, c'est parce que avant tout, c'est des gens qui disent ben moi aussi, je suis bizarre, j'ai jamais aimé les autres, j'ai jamais été bien, etc. Et je n'ai que des psychopathes autistes. Enfin, que j'ai une majorité de psychopathes autistes dans mon public, et a fortiori dans les gens qui m'aiment profondément. Voilà, ça à un moment, ça ne s'invente pas, on ne peut pas faire semblant.
Tu te desserres un peu parce que c'est assez courageux dans le sens où. Enfin, quand on est assez lucide sur le monde tel qu'il est, on voit bien qu'il n'est pas fait par et pour des gens courageux, mais que c'est plutôt le règne du compromis et qu'il faut faire fonctionner les trucs. Donc, t'avais cité une fois une très belle phrase de Balzac que je cite approximativement, qui dit que l'intelligence est un handicap si elle n'est pas accompagnée d'un goût pour l'intrigue, qui contredit complètement le talent. Voilà, mais ouais. C'est ce que tu dis. Toi, c'est Cyrano,
oui,
c'est le panache. Tu veux pas réussir, tu veux vivre. Donc, du coup, tu réussis pas, mais tu vis.
Non, mais c'est plus que ça. Ce que tu veux dire, en fait, où tu as raison, c'est que la légende veut, je ne sais pas si c'est vrai, mais la légende veut que Gainsbourg écrive des albums que tout le monde trouve merveilleux, c'est-à-dire tout le monde, 1000 personnes, et ça dépasse jamais les 1000 ventes, et qu'à un moment, il ait des grosses boules, et il fasse « Ok, maintenant, moi, je veux dormir tous les soirs dans un palace, et j'écris poupée de cire, poupée de son, et toutes les merdes qui vont suivre. » Et la légende veut, vous avez vu, j'avais du talent, je faisais des choses bien, maintenant, mon talent, je vais le prostituer, et je vais gagner de la caillasse avec ça. Bon, ça, c'est ce que veut la légende, c'est peut-être vrai. Petit 1, faut savoir le faire. Moi, demain, je saurais faire un cube. Quand j'écoute mon dernier album, une fois encore, un morceau de 35 minutes, il est plus génial que n'importe quel morceau de Booba. Évidemment qu'il est plus génial, qu'il est plus intéressant, qu'il est plus profond, qu'il est plus créatif, qu'il est plus tout ce que tu veux. Est-ce que ça, de là, ça veut dire que je saurais faire du Booba? Est-ce que je saurais faire un bouquin là, sur le bouquin que j'écris, oui, là, j'ai pas de doute, je prouve dans ce bouquin que je saurais faire un polar efficace, ça c'est vrai. Je pourrais faire des polars de 200 pages efficaces, c'est sûr. Mais, donc déjà, il faudrait savoir le faire, et ensuite, il faudrait que je renie tout ce qui est moi. Moi, je cours après cette mégalo insupportable. Je serais, ce que je disais tout à l'heure, il y a 3 jours, là, je ne sais plus, j'ai quitté le Collège de France et tout le circuit de la physique, parce qu'au fond de moi, j'aurais été... pas atrocement malheureux, mais j'aurais pas pu être heureux. Si demain, j'avais la grosse caillasse et tout ça, et que je regarde mes bouquins, je fais « Ouais, t'as écrit un polar sympa », j'aurais mal au ventre. J'ai envie de me dire « Mais t'as écrit le plus grand roman de ton temps, à tort. » C'est une névrose, il y a une part de névrose, il y a une part d'orgueil, tout ça. Cyrano, il préférerait se taper Roxane, pas avoir que des ennemis et tout ça. Mais à un moment, entre ça et son orgueil bête, il préfère crever en ayant laissé le nom de Cyrano, qui fait que putain, qu'est-ce que t'es beau. Voilà, moi, je rencontre des gens, c'est ce que je disais, privilège d'être radical à un certain âge, c'est que je rencontre des gens qui m'ont connu il y a longtemps, je vois dans leurs yeux de l'estime, de la grande estime. J'ai été voir une dame que j'aime beaucoup il y a quelque temps à Montréal, j'ai vu qu'il y avait de la grande estime et de l'amour dans ses yeux, c'est beau. C'est beau, si j'avais fait des compromis toute ma vie, si j'avais fait des petites œuvres un peu médiocres, il n'y aurait pas ça dans ses yeux, ça vaut tout. Donc effectivement, je suis écrasé par cette ambition, par cet orgueil. Est-ce que ça fait moi quelqu'un de mieux qu'un pragmatique qui s'est avancé? Évidemment, tu le penses, évidemment, je le pense, je ne vais pas mentir. C'est pas le cas de la majorité de la société, je sais pas quoi répondre à ça. Ce que je veux juste dire, c'est que, oui, il y a une part de courage et de choix. Une fois encore, les choses seraient plus claires si on nous disait un papier, voilà, est-ce que tu te renies, est-ce que tu renies tous tes trucs ou est-ce qu'on te met au peloton d'exécution et là tu fais, je ne renie rien. Bon, voilà.
Si c'était si simple.
Ça m'est pas passé comme ça, je veux dire, on m'a jamais dit, Grasset m'a pas appelé pour me dire ton nouveau bouquin, plus de 1000 pages, c'est pas possible, mais si tu nous en fais un polar, nous on le publie tout de suite et on te file 100 000 euros d'avaloir. Ça marche même pas comme ça.
On continue cette discussion demain, Tristan. Là, on est obligé de s'arrêter pour des questions de temps. Mais on continue à développer cette question intéressante demain.
Parfait, à demain.
Ciao.